Some hand in hand, and some gathered together in bands. The bleeding hearts and the artists make their stand. And when they've given you their all, some stagger and fall. After all, it's not easy. Banging your heart against some mad bugger's wall.
Radio Canut vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre. Maxime. Production. Mise en scène. Junier Jean-Pierre. Enregistrement. CVRP. Abattu et triste, se trouve dans la berline, auprès d'Hubert. Hubert lui prend la main et lui dit : je sais ce que tu ressens. Je sais. Amoureux. La vie m'a appris une chose, c'est qu'il vaut mieux quitter une personne en mourant d'amour pour elle que de vivre
avec une personne avec qui on n'a plus d'amour. L'amour ne dure pas éternellement. Les sentiments diminuent au fil des ans pour ne devenir qu'une vague habitude. Je suis sûr que Roméo et Juliette auraient perdu leur amour s'ils avaient vécu longtemps ensemble. Tu comprends ce que je veux dire? Le voyage se passe sans histoire. Maxime est toujours morose. Hubert essaye de le distraire, mais il reste distrait sur sa peine. Il lui a dit ce qu'il devait lui dire, et c'est tout. Il se dit que l'amour ne peut se guérir que par l'amour. Et si au cours du voyage, il avait une petite aventure? Il se sent arrêté à Rome. On prit deux chambres dans un hôtel luxueux. On visitait les musées, sont allés dans des spectacles. Maxime, en cachette d'Hubert, a écrit à Mathilde et lui a dit que sa prochaine étape sera Vérone. Vérone, Hubert a décidé de louer une petite maison car il a l'intention de rester. Il veut rester plusieurs jours dans cet endroit qu'il aime beaucoup. La maison est modeste mais propre. Elle se trouve en retrait de la ville. Devant la maison se trouve un jardin. Elle a un étage où se trouvent les deux chambres. Une femme vient chaque jour s'occuper d'eux. Hubert a loué un cabriolet pour pouvoir visiter le pays. Pendant qu'Hubert visite en cachette, il écrit à Mathilde. Il lui crie son amour. S'il n'y avait pas Hubert, qu'il aime et respecte, il partirait la voir. Mais il ne peut pas, car Hubert aurait des ennuis. Comme le printemps est doux, ils passent leur journée en promenade pour visiter les environs. Et leur soirée au coin du feu pour lire. Hubert trouve Maxime toujours aussi morose. Cela l'attriste beaucoup. Un matin qu'Hubert est parti en ville, Maxime est dans sa chambre, à lire assis sur le rebord de la fenêtre. Tout à coup, il entend venir un fiacre. Qui s'arrête devant le portail de la maison. Il regarde à la fenêtre. Et voir que sort du fiacre, Mathilde. Son corps bat, il n'en croit pas ses yeux. Mathilde, ce n'est pas possible. Il pose son livre sur le rebord de la fenêtre. Et sort de la chambre en courant. c'est la sonnette de la porte d'entrée. Il accourt ouvrir. Elle est là, comme une apparition, habillée de blanc, le regard lumineux. Tu ne me fais pas rentrer, Maxime ? Oui, bien sûr. Il la fait entrer et ferme la porte. Il est tellement ému. Il la regarde bêtement. J'ai pas fait tout ce voyage pour que tu me regardes ainsi. Tu ne m'embrasses pas. Alors il se jette dans ses bras. Doucement, doucement, mon chéri. Tu cabosses mon chapeau. Il se dégage. Tu vois, je suis venu. Elle lui prend le bras. Ça semble bien ici. Il lui demande. Tu es venu vivre avec nous ? Dis que tu ne me quitteras plus. Je te le promets, je ne te quitterai plus. Ils font quelques pas. Elle s'assoit et le fait asseoir à côté d'elle sur les marches des escaliers. Elle lui dit « Ton absence m'était devenue insupportable. Alors je me suis sauvée pour te rejoindre et te prendre avec moi. Nous allons nous cacher et vivre ensemble. Où est ton gardien ?»« Mon gardien ?» demande Maxime. Oh, « Hubert, il est parti en ville. Mais je ne peux le quitter ainsi. » Mais trop cher. Il caresse ses visages et lui dit « Il faudra choisir entre lui et moi, car ton ami, comme tu dis, est à la solde de celui qui veut nous séparer. » « Que dis-tu là ? Je ne peux te donner nous la personne, mais sache que l'on a su que nous étions amants et que l'on m'a empêché de te voir payer Hubert pour t'éloigner de moi. » Père, prouve-le. Le jour de ton départ, tu es venu chez moi. J'y étais, mais je n'ai pas pu te recevoir, car on m'y a empêché. Elle le prend dans ses bras et lui dit « Personne ne pourra plus nous séparer. Personne ne pourra plus nous séparer. Partons avant qu'il ne revienne. Oui, tu as raison. » Il se lève pour sortir de la maison. Dans le fiacre, ils sont partis. Il lui demande où allons-nous ? J'ai pensé à la Sicile, à Paris. J'ai tout vendu : appartement, bijoux, robes, meubles, tout. L'argent est sur moi. Ça nous permettra d'acheter une maison et de vivre secrètement quelque temps. Maxime dit : moi, je n'ai rien. À la main et lui dit « Tu m'aimes, nous nous aimons. Je suis folle. » Tu sais combien de temps cela va durer. Je suis beaucoup plus vieille que toi. Peut-être est-ce qu'un jour,
tu me trouveras trop vieille et tu ne voudras plus de moi. Non, c'est toi qui en auras assez de moi. Moi qui ne suis rien, qui suis qu'un incapable. Et lui sourit, lui dit, ne dis pas de bêtises, mon chéri. Nous sommes en route. Sauvons-nous très fort. Serrons-nous très fort pour protéger notre amour. Pour protéger notre amour. Voyager toute la journée par peur d'être pris. La nuit venue, ils se sont arrêtés devant une auberge de campagne. On dînait. Puis on demandait une chambre. L'aubergiste lui dit. C'est-à-dire que nous n'avons plus qu'une chambre à un lit. Mais si ça ne gêne pas madame de coucher avec son fils. Cette phrase lui donne un coup au cœur. Nous la prenons. Une fois dans leur chambre, et c'est une chambre minable, sale. Elle lui dit pendant qu'elle se déshabille, « Je suis si vieille que cela. » Il la prend dans ses bras et lui dit, « Mais non, tu es très belle et mille fois plus jeune que toutes ces idiotes de 20 ans. » Puis, ils se sont retrouvés, tout oubliés. Leurs corps se sont confondus et unis par le même plaisir. Le lendemain matin, ils sont repartis. Au milieu de l'après-midi, Mathilde se sent lasse et l'on décide de passer quelques jours à la prochaine auberge. Après avoir mangé à l'auberge, l'aubergiste leur a indiqué une petite maison à louer. C'est une petite villa, toute blanche, au milieu d'une nature sauvage et aride. La maison est du 18e à un étage et une grande terrasse. Les meubles d'époque sont recouverts de tulle. Vitrée, la maison est très claire, très ensoleillée. Il décide de n'occuper qu'une chambre du haut et le salon du bas. Il passe des jours heureux et calmes hors du monde. Une jeune fille du village leur fait les courses, la cuisine et le ménage. La fin de la journée, il la passe assis sur la terrasse, sur des chaises en osier. Elle soupire et dit : Ne sommes-nous pas heureux ainsi ? Oui. Et il accourt pour poser sa tête sur ses genoux. Ils vivent un bonheur entier, sans une seconde d'ennui. Pourtant Maxime, avec sa jeunesse, resté inactif dans un endroit désert. Cela ne le gêne pas, car l'amour appelle la douceur. Une douceur tout aussi forte que la fougue amoureuse. Les jours passent ainsi, sans qu'il puisse s'en rendre compte. Il fait de plus en plus chaud. Les jours sont de plus en plus longs. Un jour, ils sont au salon, ils entendent le bruit d'un fiacre. Ils s'arrêtent devant la porte de la villa. L'on a sonné à la porte. Intrigué, Maxime va ouvrir. C'est Hubert.
Bonjour Maxime, ou plutôt bonsoir. Pardonne-moi de venir si tard, mais je n'ai pas pu venir avant.
Ça ne fait rien, Hubert. Entrez. Il entre, Maxime ferme la porte. Il est honteux et se sent fautif devant Hubert. Il le mène au salon. Là, il retrouve assise Mathilde. Il s'approche d'elle. Mathilde, je te présente Hubert.
Monsieur.
Madame.
Elle est irritée de voir la façon dont se comporte Maxime.
Et qu'êtes-vous venu faire ? Demande-t-elle.
Je suis malheureusement venu chercher Maxime.
De quel droit ? Dit Maxime.
Votre père t'a mis sur ma protection. Tu dois rester avec moi. Tu es mineur.
Je n'irai pas avec toi. Je veux rester ici.
Maxime, mon enfant.
Je ne suis pas votre enfant.
Je le sais. Écoute-moi. C'est pour toi que je demande de venir avec moi. Ta place n'est pas ici. Ta vie n'est pas là.
Tu n'as aucun avenir.
Ta vie est perdue en vivant ici.
Maxime ne répond pas. Cela l'irrite. Elle se lève.
Et dit : Maxime, tu ne dis rien ? Il te dit que je ne suis pas digne de toi ? Et tu ne dis rien ? Elle marche furieuse dans la pièce, pendant que les deux hommes se font face.
Les payer par ton père pour nous séparer, car ton père m'aime, plutôt il veut que je sois sa chose. Et tu ne dis rien. Je me suis sauvé de son emprise. J'ai tout quitté pour toi. Et tu ne dis rien lorsqu'on le veut m'humilier devant toi. Maxime bouillonne et se met à crier. Est-ce que mon père t'a demandé de s'occuper de moi pour m'éloigner de Paris? Oui, j'ai accepté. Parce que c'était pour ton bien. Espèce de salaud! Tu t'es mis du côté de celui qui veut ma perte en m'éloignant de celle que j'aime.
Il s'approche du père.
Toi, mon ami, l'être que j'aime le plus au monde, celui en qui j'avais confiance, Judas, tu as trahi toutes ces années d'amitié.
Maxime, je t'en prie, Maxime, je n'ai rien trahi en agissant de cette façon. J'ai fait ce que j'ai pu, ce que je crois bon pour toi, car tu fais fausse route.
De fureur, Maxime fait le geste de lui donner un coup de poing et lui dit
« Oh, je t'en prie, ne parle pas de cette façon. Tu t'humilies.
Regarde les choses en face, Maxime. »
Maxime de fureur se rue sur lui.
Je t'ai dit d'arrêter d'humilier Mathilde, fumier, à la solde de mon père. Il le cogne, Hubert se défend pas.
Maxime le fait tomber et tombe sur lui.
Il roule sur le parquet, tous deux enlacés.
Mathilde les regarde effrayée et excitée. Elle voit qu'Hubert va reprendre le dessus. Elle voit sur la table du salon un coupe-papier. Elle va le prendre et le jeter à terre vers Maxime. Le bruit le lui fait voir. Il le prend et machinalement dans la fougue de la bagarre, il lui en donne un coup dans le cou. Le sang gicle et la larme reste dans le cou. Maxime, tout à coup, prend conscience de ce qu'il vient de faire. Il se soulève.
Hubert.
Mais vis autrement.
Il est mort. Effrayé Maxime, le secoue. Hubert. Hubert. Non. Non.
Mathilde va vers lui et se penche. Le prend à l'épaule.
Il est mort. Il n'y a plus rien à faire pour lui.
Lève-toi. Machinalement, il se lève. Il la regarde pris de fureur.
C'est ta faute. Pourquoi m'as-tu forcé à faire cela?
Elle se met à genoux devant le corps.
Oui, c'est de ma faute. Je l'ai fait par colère. Il m'avait humilié devant toi. Alors une rage folle m'a prise. J'ai senti toutes ces humiliations que j'avais eues. Ton père qui me traitait comme une traînée. J'ai ressenti tout cela en quelques secondes. J'ai voulu que tu me venges, que tu me défendes. Lorsque je vous ai vu vous battre, j'étais comme ivre. Lorsque j'ai cru qu'il prenait le dessus, j'ai jeté le coup de papier. Il fallait que tu sois vainqueur pour moi.
Et je l'ai tué.
Nous l'avons tué. Et maintenant que ma fureur est passée, je le regrette.
Maxime lui dit,
j'ai tué mon meilleur ami. Il n'y a plus rien à faire.
Non, il n'y a plus rien à faire, lui répond-elle en écho.
et reste sans parler un moment devant le corps. Maxime dit
« Je suis perdu !»
Elle « Il faut cacher le corps et partir, sinon nous serons pris. » Il ne réagit pas, elle se lève d'un bond. Elle lui dit
« Tu dois m'aider à cacher le corps. Je dois en plus souiller le corps de mon ami. »
Il le faut, et de toute façon il est mort. Les corps, on les enterre.
Ouh !
Derrière la maison, personne ne pourra nous voir avec le mur. Allons, du courage. Prenons le corps et portons-le. Ils prennent le corps, lui par les bras, elle par les pieds.
Robert, pardonne-moi.
Ils sortent de la maison par la porte de derrière. Il y a un jardin en friche entouré d'un mur. Pose le corps à terre. Maxime va prendre dans une vieille cabane en bois, qui est celle du jardinier, une pelle. Il va creuser le trou près du mur. Il s'arrête un moment épuisé. La terre est sèche et c'est dur, ce n'est pas facile, surtout pour une personne qui n'a jamais eu de pelle à la main. D'une heure, il a les mains qui lui font mal. Elles sont en sang. Il commence à avoir des ampoules. Le trou n'est pas trop profond, mais il n'en peut plus. Alors il pousse le corps dedans. Ça le répugne. C'est là qu'il se rend vraiment compte qu'Hubert est mort. Et lorsqu'il le recouvre de terre, il se dit que c'est lui qui l'a tué et lâche l'appel. Il est en sueur, fatigué, épuisé, épeuré, écœuré. Il le prend par la main. Viens, tu vas te changer et nous partons tout de suite. Elle le ramène à la maison. Elle a pris son argent. Ils sont partis avec le fiacre d'Hubert. Ils sont allés plus au sud. Reste un jour, deux jours dans des auberges. On porte des recherches. Après deux semaines de cette vie d'errance, Maxime est toujours morose. Il a du remords pour son ami et néglige Mathilde. Il ne peut oublier que c'est par sa faute qu'il a tué. Elle commence à en avoir assez de cette vie d'errance, et puis son argent diminue.
Elle se lasse aussi de ce Maxime morose et triste.
Dans une auberge, en lisant le journal local, ils apprennent que le corps a été découvert et qu'ils sont recherchés. Maxime lui dit, nous n'avons plus qu'à nous rendre. Non, Maxime, le mieux c'est de rentrer en France. Elle est éloignée. Il faut essayer. Partons de suite. C'est ce qu'ils font. Après une semaine de voyage lugubre, où ils se sont arrêtés juste pour prendre des repas rapides dans des petites auberges, excités par leur fuite, ils ne pensent plus à leur amour. D'ailleurs, qu'en reste-t-il ? Bien vite parti en fumée. Une passion, l'on croit que ça va durer toute la vie, et la plupart du temps, ça part aussi vite que c'est venu. Durant leur fuite, ils ne s'en rendent pas compte. Très excités. Ils ont pu passer la frontière sans encombre. Là, ils se sentent plus libres et soufflent un peu. Ils sont allés dans une auberge et ont pris une chambre. Ils sont tous deux assis, épuisés, devant un bon feu de cheminée. Après un moment de calme et de vie dans elle, Mathilde regarde Maxime. Une pensée lui vient. Elle se demande ce qu'elle fait avec lui. Elle s'aperçoit qu'il ne représente plus rien pour elle. Elle a l'impression de sortir d'un rêve ou d'un cauchemar. Que ce n'est pas elle qui ressentait tout ça. Elle redevient elle-même et décide d'un coup, comme d'un coup son aventure a commencé, de l'arrêter de la même façon. Maxime, lui, est encore sous le choc de la mort de son ami.
Maxime,
oui,
je crois qu'il faudrait, ce serait mieux que nous nous séparions. Tu ne dis rien ?
Tu veux me quitter pour être plus libre ?
Dit-il.
Non, parce que nous n'avons plus rien à nous dire. Nous avons fini notre liaison. Nous sommes comme deux inconnus maintenant. Tu as peut-être raison, moi aussi. Je ne ressens plus rien de profond pour toi. C'est sans doute ce que nous avons fait ensemble qui a fait disparaître notre amour. Qu'allons-nous faire ?
Elle lui prend la main et lui dit, nous quitter gentiment et partir chacun de notre côté.
Et où irai-je ?
Je te conseille de te cacher quelque temps chez ta famille.
Et toi, que feras-tu ?
Oh, moi,
il ne me reste rien. Je vais me chercher un riche protecteur. Que veux-tu? Faut bien vivre. Allons, allons manger maintenant. Et séparons-nous. Je suis bien pressé de me quitter. Je n'aime pas les adieux prolongés. Il se lève. Et sortent de la chambre. Après avoir déjeuné, ils sont partis chacun dans une berline. Maxime s'en retourne au pays de Loire, où il sait que retrouver sa famille en cette saison. Le voyage se fait sans encombre. Maxime a l'âme triste et se dit qu'il a tué son meilleur ami, perdu son temps pour une passion qui n'en valait pas la peine. Un soir, qu'il est dans une auberge, près d'un lac, de montagne, il est pris de cafards. Il a deux pas de se suicider. C'est une nuit sans lune. L'eau du lac semble un grand gouffre noir. Mais, juste au moment où il va pour faire le pas, la lune apparaît en reflet sur le lac. Il la regarde et se dit « Je ne peux pas, j'aime trop la vie, trop aimer la vie. C'est peut-être la punition, c'est peut-être trop facile de se racheter en mourant. Quelques secondes et tout est oublié. Tandis qu'en vivant, j'ai toute la vie pour penser à mon crime. » Et il retourne à l'auberge. Il est arrivé un après-midi au château des Pressans. Ses parents sont au salon, sont surpris de le voir. La poussière du voyage, le regard pâle et fatigué, son père s'approche de lui et lui demande
« Quelle surprise de te revoir, tu es là fatigué.
Et où est Hubert ?»
Ne répond pas. Regarde sa mère. À qui peut-il parler? Alors il se met à hurler.
À personne!
Et soudain, s'effondre, tombe à terre.
se réveille dans son lit. Sa mère est à ses côtés. Elle lui demande « Peux-tu me dire ce que tu as ?»«
Oh, ma mère, pouvez-vous être une mère une fois dans votre vie ?»« J'ai tellement besoin d'une mère, de quelqu'un à parler. Suis-je donc le fils de personne dans cette famille ?»« Dis-moi, à qui je puis me confier ?»
Louise est troublée, les larmes aux yeux, elle lui dit
« Mais à moi, mon fils, c'est vrai ?» Vous savez, après tant d'années, vous serez ma mère ?
Oui. J'ai fait un crime immense, et seule une mère peut pardonner.
Parle.
Louise est prête à tout pour son fils, car depuis quelque temps, elle s'est rendue compte que le temps qu'elle a perdu à ses occupations ne mène à rien. Elle a perdu sa vie pour des choses éphémères. Et que la chose la plus positive de sa vie était sa famille qu'elle avait délaissée. Mais maintenant, elle était prête à se donner corps et âme pour elle. Elle commencerait par s'occuper de son fils. Elle s'était rendue compte de tout ceci à cause du refus des dames patronesses pour la nommer présidente de leur association, malgré tout ce qu'elle avait fait pour elle. Une fois que Maxime lui est tout dit, elle fait un effort pour garder la tête froide et ne penser qu'à lui. Puis, après avoir soufflé toute l'énergie qu'elle mettait dans ses occupations, est mise pour aider et sauver son fils.
Mon petit, je comprends ta douleur. Tu es coupable et ce sont les circonstances qui t'ont mené dans ce gouffre.
Dieu l'a voulu. Peut-être l'a-t-il voulu pour t'empêcher de te perdre, pour te ramener dans la bonne voie, et aussi pour que nous nous retrouvions. Il faut prier pour le pauvre Hubert, Maxime. Hubert a été comme l'agneau sacré, et lui demander pardon.
Être entré en plein dans un nouveau personnage et sa façon lyrique l'y aide. Quant à Maxime, il se laisse bercer par ce flot de paroles qui le berce et le réconforte.
La police risque de te rechercher. Il faut rester caché ici.
Ici, mais pas dans cette chambre. Les domestiques ne doivent pas se voir que tu es là. Je t'aménagerai une chambre en haut, au grenier. Tu verras, tu seras très bien. Quant à ton père, nous ne dirons rien. Allez, repose-toi. Je vais tout préparer. Elle l'embrasse et sort de sa chambre, tout excitée.
Thank you.
Radio Canu vous a présenté dans la série Les Camps Radiophoniques un scénario original de Julien Jean-Pierre Maxime, dont c'était la quatrième partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.
La CVRP, Cinéma, Vidéo, Radio Production, vous a présenté une cassette OB.